Chapitre 3 : La maîtrise des appétits et des passions. Abstenez-vous des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ainsi parle l'apôtre Pierre, 1 Pierre 2.11. Plusieurs considèrent ce texte comme étant un avertissement contre la licence seulement, mais il possède une signification plus large. Il interdit toute satisfaction des appétits et des passions pouvant nuire à la santé. Que toute personne se disant spirituelle évite de considérer avec indifférence la santé du corps et de se bercer de l'illusion que l'intempérance n'est pas un péché et n'affectera pas sa spiritualité. Il existe un lien étroit entre la nature physique et la nature morale. N'importe quelle habitude qui ne favorise pas l'amélioration de la santé avilit les facultés les plus élevées et les plus nobles. De mauvaises habitudes dans le manger et de boire conduisent à des erreurs dans la pensée et l'action. L'indulgence à l'égard de l'appétit fortifie les tendances animales, leur permettant de dominer sur les pouvoirs mentaux et spirituels. Il est impossible de jouir des bénédictions de la sanctification tout en étant égoïste et glouton. Beaucoup de gens gémissent sous le fardeau des infirmités à cause de mauvaises habitudes de manger et de boire qui contreviennent aux lois de la vie et de la santé. Ils affaiblissent leurs organes digestifs en laissant libre cours à un appétit perverti. La capacité de la constitution humaine de résister aux abus est merveilleuse, mais persister dans la mauvaise habitude de manger et de boire avec excès affaiblira chaque fonction du corps. Nous voyons, même parmi ceux qui se prétendent chrétiens, que l'œuvre de la nature est paralysée et que leurs pouvoirs physiques, mentaux et spirituels sont diminués par la satisfaction de leur appétit perverti et de leur passion. Que ces personnes faibles considèrent ce qu'elles auraient pu être si elles avaient vécu de manière tempérante et avaient travaillé en faveur de leur santé au lieu d'en abuser. Ce n'est pas une chose impossible. Lorsque Paul a écrit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier 1 Thessaloniciens 5.23, il n'exhortait pas ses frères à viser un niveau impossible à atteindre. Il ne priait pas afin de pouvoir obtenir des bénédictions contraires à la volonté de Dieu. Il savait que tous ceux qui seront prêts à rencontrer le Christ avec la paix dans le cœur devront posséder un caractère pur et saint. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres 1 Corinthiens 25 septembre 2027. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu 1 Corinthiens 6.1920. Une offrande sans défaut. De nouveau l'apôtre écrit aux croyants, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable » Romains 12.1. Des instructions spécifiques furent données à l'ancien Israël qu'aucun animal imparfait ou malade ne devait être présenté en offrande à Dieu. Seuls les plus parfaits devaient être choisis dans ce but. Le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Malachie, réprimanda sévèrement son peuple de s'être écarté de ses instructions. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien, te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains? Dit l'Éternel. Malachie 1er juin 2013. Même si elles sont adressées à l'ancien Israël, ces paroles contiennent aujourd'hui une leçon pour le peuple de Dieu. Quand l'apôtre demande à ses frères de présenter leur corps en sacrifice vivant, sain et acceptable à Dieu, il pose les principes de la véritable sanctification. Ce n'est pas simplement une théorie, une émotion ou une forme d'expression, mais un principe vivant, actif, pénétrant la vie de tous les jours. Il requiert que nos habitudes de manger, de boire, de nous habiller soient de nature à préserver la santé physique, mentale et morale, afin que nous puissions présenter au Seigneur nos corps, non pas en offrande corrompue par de mauvaises habitudes, mais en sacrifice vivant, sain et acceptable à Dieu. Stimulant et narcotique. L'exhortation de Pierre de s'abstenir des convoitises charnelles est un avertissement très direct et très fort contre l'utilisation de stimulants et narcotiques tels le thé, le café, le tabac, l'alcool et la morphine. Ces plaisirs peuvent très bien se classer parmi les convoitises qui exercent une influence pernicieuse sur le caractère moral. Plus tôt ces habitudes seront la maîtrise des appétits et des passions formées, plus fermement elles saisiront leurs victimes pour en faire l'esclave de leur convoitise, et plus certainement elles abaisseront le niveau de spiritualité. L'enseignement biblique ne fera que peu d'impression sur ceux dont les facultés sont engourdies par la satisfaction égoïste. Des milliers sacrifieront non seulement la santé et la vie, mais aussi leur espérance céleste plutôt que de lutter contre leurs propres appétits pervertis. Une dame qui se disait depuis plusieurs années sanctifiée fit cette déclaration que si elle devait abandonner sa pipe ou le ciel, elle dirait « Adieu, ciel, je ne peux pas vaincre mon amour pour la pipe ». Cette idole avait été enchâssée dans son âme, ne laissant qu'une place subordonnée à Jésus. Pourtant cette femme prétendait appartenir entièrement au Seigneur. Des convoitises qui font la guerre à l'âme. Où qu'ils soient, ceux qui sont réellement sanctifiés élèveront le niveau moral en préservant de bonnes habitudes physiques, et, comme Daniel, présenteront aux autres un exemple de tempérance et de renoncement à soi. Tout appétit perverti devient une convoitise qui nous fait la guerre. Tout ce qui entre en conflit avec les lois de la nature crée une condition maladive dans l'âme. L'indulgence de l'appétit produit un estomac dyspeptique, un foie engourdi, un cerveau obscurci, et pervertit ainsi le tempérament et l'esprit de l'homme. Ces facultés affaiblies sont ensuite offertes au même Dieu qui refusait d'accepter les victimes pour le sacrifice à moins qu'elles ne soient sans défaut. Il est de notre devoir d'amener nos appétits et nos habitudes de vie en conformité avec les lois de la nature. Si les corps offerts sur l'autel du Christ étaient examinés et scrutés avec autant d'attention que l'étaient les sacrifices juifs, qui seraient acceptés? Combien les chrétiens devraient prendre soin de régler leurs habitudes afin de pouvoir préserver la pleine vigueur de chaque faculté employée au service du Christ? Si nous voulons être sanctifiés de corps, d'âme et d'esprit, nous devons vivre en conformité avec la loi divine. Le cœur ne peut préserver sa consécration à Dieu alors que les appétits et les passions ont libre cours aux dépens de la santé et de la vie. Ceux qui violent les lois qui régissent la santé doivent en souffrir la punition. Ils ont tellement limité leur capacité en toute chose qu'ils ne peuvent plus correctement s'acquitter de leurs devoirs envers leurs prochains, et ils échouent complètement dans leur réponse aux exigences de Dieu. Lorsque le clergé écossais demanda à Lord Palmerston, premier ministre d'Angleterre, de désigner un jour de jeûne et de prière afin d'éviter le choléra, il répliqua à cet effet, « Nettoyez vos rues et vos maisons, faites la promotion de l'hygiène et de la santé chez les pauvres et voyez à ce qu'ils soient abondamment pourvus de bonne nourriture et de vêtements, qu'ils emploient de manière générale de bonnes mesures sanitaires, et vous n'aurez pas besoin de jeûner et de prier. Le Seigneur n'écoutera pas non plus vos prières tant que ces moyens de prévention ne seront pas suivis. » Paul dit, « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu » 2 Corinthiens 7.1. Afin de nous encourager, il nous présente la liberté dont bénéficieront ceux qui seront véritablement sanctifiés, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8.1. Il exhorte ainsi les Galates, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair » Galates 5.16. Il identifie de plus certaines formes de convoitise charnelle, l'idolâtrie, l'ivrognerie, et les choses semblables Galates 20 mai 2021. Et, après avoir mentionné les fruits de l'esprit, parmi lesquels la tempérance, il ajoute, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs » Galates 5.24. Le tabac. Jacques nous dit que la sagesse d'en haut est premièrement pure Jacques 3.17. S'il avait vu ses frères utilisant du tabac, n'aurait-il pas dénoncé cette habitude comme terrestre, charnelle, diabolique Jacques 3.15? En cet âge éclairé du christianisme, il arrive trop souvent que les lèvres qui prononcent le précieux nom du Christ soient souillées par le jus de tabac et la laine polluée par son odeur. Assurément l'âme qui peut jouir d'une telle impureté doit être, elle aussi, souillée. Tandis que je voyais des hommes prétendre bénéficier de la bénédiction d'une sanctification parfaite tout en étant esclaves du tabac et polluant tout autour d'eux, je me suis demandé, de quoi aurait l'air le ciel avec ces usagers du tabac? La parole de Dieu a clairement déclaré, il n'entrera chez elle rien qui souille Apocalypse 21.27. Comment ceux qui se permettent cette habitude malsaine peuvent-ils alors espérer y être admis? Des hommes professant la piété offrent leur corps sur l'autel de Satan et brûlent de l'encens de tabac à sa majesté satanique. Cette déclaration semble-t-elle sévère? L'offrande est sûrement présentée à une quelconque divinité. Puisque Dieu est pur et saint et n'acceptera rien d'un caractère souillé, il se doit de refuser ce sacrifice dispendieux, malsain et impur. Nous devons par conséquent conclure que Satan est celui qui en réclame l'honneur. Jésus est mort afin d'arracher l'homme de l'étreinte de Satan. Il est venu pour nous libérer par le sang de son sacrifice expiatoire. L'homme qui est devenu la propriété de Jésus-Christ et dont le corps est le temple du Saint-Esprit ne se laissera pas enchaîner par cette habitude pernicieuse qu'est l'usage du tabac. Ses facultés appartiennent au Christ qu'il a racheté au prix de son sang. Il est la propriété du Seigneur. Comment donc peut-il être innocent alors qu'il dépense chaque jour le capital qui lui a été confié dans le but de satisfaire un appétit dénué de tout fondement naturel? Une somme énorme est gaspillée chaque année pour cette habitude chérie alors que les âmes périssent de faim pour la parole de vie. Les chrétiens de profession volent Dieu en dîmes et en offrandes, alors qu'ils offrent sur l'autel d'une convoitise destructrice par l'usage de tabac plus qu'ils ne donnent pour soulager les pauvres ou pour voir aux besoins de la cause de Dieu. Ceux qui sont réellement sanctifiés triompheront de tout désir préjudiciable. Tous ces canaux de gaspillage inutile seront alors déviés vers le trésor du Seigneur, et les chrétiens montreront. La maîtrise des appétits et des passions la voie à suivre dans le renoncement, le sacrifice de soi et la tempérance. C'est ainsi qu'ils seront la lumière du monde. Le thé et le café. Le thé et le café, tout comme le tabac, ont un effet nocif sur le système. Le thé est intoxicant. Même s'il l'est à un degré moindre, son effet est de même nature que les spiritueux. Le café a une plus grande tendance à obscurcir l'intelligence et à paralyser la volonté. Il n'est pas aussi puissant que le tabac mais ses effets sont semblables. Les arguments présentés contre le tabac peuvent aussi l'être par rapport à l'usage du thé et du café. Lorsque ceux qui ont l'habitude d'utiliser du thé, du café, du tabac, de l'opium ou des boissons alcoolisées sont privés de leur plaisir habituel, ils se voient incapables de s'engager avec intérêt et zèle dans le culte de Dieu. La grâce divine semble impuissante à vivifier ou rendre spirituel leur témoignage ou leur prière. Ces chrétiens de nom devraient considérer quelle est la source de leur plaisir. Vient-elle d'en haut, ou d'en bas? Pour celui qui fait usage de stimulants, tout semble manquer de saveur sans sa chère habitude. Elle détruit la sensibilité à la fois du corps et de l'esprit, et rend la personne moins susceptible à l'influence du Saint-Esprit. En l'absence du stimulant habituel, elle ressent une faim du corps et de l'âme, non pour la justice, ni pour la sainteté ou la présence de Dieu, mais pour son idole chérie. En se permettant de tels désirs préjudiciables, les chrétiens de profession affaiblissent continuellement leurs facultés, se rendant incapables de glorifier Dieu.